Du fait de la date de Pâques, nous prenons des dimanches après l'épiphanie qui sont appelés des dimanches mobiles pour atteindre la fin de l'année et permettre au dernier dimanche de l'année liturgique d'être celui du jugement dernier et de la venue de notre Seigneur en gloire pour juger les vivants et les morts. Ainsi donc, nous avons encore dans ces dimanches, dans l'espérance, dans cette couleur verte, des évangiles qui nous encouragent à traverser cette vie en nous donnant des principes moraux fondés sur la foi. Et aujourd'hui, ce miracle de la tempête apaisée nous dit à quel point nous devrions fonder notre foi et notre espérance dans la divinité de Jésus. En effet, ce qui nous distingue d'une manière toute particulière par rapport aux autres religions, c'est la divinité du Christ. Vrai Dieu et vrai homme. Aujourd'hui, il y a un enseignement très particulier dans ce miracle de la tempête apaisée, car il y a à la fois la peur de l'homme face à la mort et au danger, et l'intervention tardive de Dieu. Et en ce mois de novembre, mois plus particulièrement consacré pour la prière pour les défunts, nous devons bien comprendre nous-mêmes comment Dieu agit. Eh bien, Dieu nous laisse à notre liberté et notre responsabilité tout au long de notre vie, avec, en éclairant notre conscience, notre jugement d'intelligence sur nos actes passés et sur nos décisions futures, et pour ensuite nous permettre d'avoir bonne conscience ou mauvaise conscience. Et cela pour nous faire porter du fruit authentique. Et à travers tous les événements d'une vie humaine, de la plus petite enfance jusqu'à l'âge le plus avancé, nous permettre de mériter. On ne peut comprendre la religion, on ne peut comprendre la volonté de Dieu, qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel, si on ne comprend pas que Dieu veut nous mettre à l'épreuve, veut nous pousser dans nos retranchements, veut que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Dieu est un Père, Dieu nous aime, et l'exigence divine n'est pas l'exigence d'un... Je ne veux pas froisser des personnes qui connaîtraient des Japonais, qui seraient japonais dans l'assistance. Voyez-vous, il est connu que les enfants japonais, qui sont malheureusement très peu nombreux, sont poussés dans leurs études d'une manière tellement intense que certains se suicident. Et les parents sont d'une très grande exigence. Est-ce qu'on peut comparer Dieu à un être qui met à ce point nos vies à l'épreuve que nous sommes véritablement pressés de toutes parts? Nous savons bien qu'il est parmi nous des personnes qui ont eu des croix et des épreuves toutes particulières. Et d'autres qui semblent traverser la vie paisiblement ou sans de grandes épreuves. Eh bien, cela est souvent faux d'appréciation. Nous ne sommes pas dans les vies de chacun. Et nous avons tous à un moment donné un rendez-vous avec notre conscience, avec notre liberté. Nous ne pouvons pas dire que nous avons une vie ordinaire ou simple. Nous sommes appelés à donner véritablement le meilleur de nous-mêmes à travers notre vie. Et si l'épreuve consiste à vaincre la médiocrité et à penser que, justement, dans nos vies, nous n'avons pas fait de choses extraordinaires, c'est un orgueil sous-jacent qui nous fait penser cela. Aucune vie n'est médiocre, aucune vie n'est insignifiante. Nous sommes tous appelés à jouer notre rôle dans le plan divin. Et c'est par paresse que nous passons à côté de nos devoirs. Nous avons un grand devoir qui est justement de sortir de nous-mêmes et, comme le dit saint Paul aujourd'hui, de nous aimer les uns les autres. Mais cet amour est un amour en pensée, en parole et en action. C'est la raison pour laquelle, au moment de notre mort, quand nous sommes face à nous-mêmes, que notre âme qui anime ce corps, que notre esprit immortel sort de ce corps animal, qu'il ne passe plus par le cerveau, par les cinq sens, pour saisir l'extérieur, l'abstraire et constituer à la fois notre mémoire, notre imagination, mais nos décisions libres et non pas seulement de l'instinct animal. Nous avons en une seule pensée toute notre vie. Car nous n'avons plus à susciter des images par notre imagination liée à notre cerveau et à notre corps. Nous n'avons plus à nous reposer, à dormir, nous sommes morts. C'est-à-dire que l'âme est sortie du corps. À ce moment-là, toute notre vie, toute notre mémoire est en une seule pensée. C'est la raison pour laquelle nous nous présentons devant Dieu immédiatement en connaissant toute notre vie. Et qui nous juge? Eh bien, c'est Jésus qui nous juge. Il a mérité de juger tous les hommes parce qu'il est Dieu et parce qu'il est homme. Il n'y a pas de tradition humaine qui permettra ce jugement. Il n'y aura pas de ces religions que l'homme a fabriquées. C'est Jésus qui jugera les musulmans, qui jugera les bouddhistes, qui jugera les hindous, qui jugera les animistes, lui-même, l'homme Dieu. Parce qu'il a mérité d'être notre chef, il est l'un d'entre nous et il a offert sa vie innocente pour le poids des souffrances et des péchés du monde. Et alors que nous serons nus devant lui et que notre vie sera en une seule pensée devant lui, il nous demandera ce que nous avons choisi. C'est là que se trouve le purgatoire lorsque nous voyons que tout en ayant aimé et en désirant en vérité la vie avec lui, d'aller avec lui, de connaître son Père, de connaître l'Ancien des jours, de connaître Dieu dans son être éternel, d'être uni à notre Père, à notre origine, à notre Créateur, nous nous apercevons du temps perdu, de nos péchés mal réparés, des offenses qui nous ont blessés et dont nous avons gardé rancune, impitoyablement ou insensiblement. Et voilà que nous serons invités à ce regret. C'est la raison pour laquelle dans ce mois pour la prière des défunts, vous êtes invités à vous confesser pour prier pour les défunts. Allez dans un cimetière du 1er au 8 novembre et priez pour eux. Priez pour ceux qui sont déjà morts et qui ont été jugés par le Christ, alors que vous êtes vivants et que vous pouvez encore mériter. À Paris, vous avez l'occasion de vous confesser partout. Vous avez à Saint-Louis-d'Antin, à la rue du Bac, à Notre-Dame, à Saint-Sulpice, à d'autres lieux encore, la possibilité de vous confesser. Et si certains prêtres relativisent des péchés, vous dites devant le Christ ce qui vous pèse, ce que vous êtes, et sincèrement et humblement. Et le prêtre, quels que soient ses commentaires, on lui demande d'être le serviteur du Christ et de nous donner l'absolution. Et s'il ne vous donne pas de pénitence, parce que parfois il y a des prêtres qui ne vous donnent pas de pénitence, eh bien vous avez la liberté de la choisir. Mais faites une prière liée à votre confession. Et alors, en visitant un cimetière, en ayant assisté à la messe le jour même et en ayant communié, vous allez porter votre conscience et votre volonté vers ces âmes qui vous ont précédées. Et il y en a parmi elles que vous avez aimées. Ce sont des grands-parents, ce sont des parents, ce sont des frères, des sœurs, des amis. Et quelles que soient les querelles, quelles que soient les rancunes, il n'est pas possible que dans votre nature, l'Esprit-Saint n'ait pas entretenu ce désir de retrouvailles et de salut. Voilà donc pourquoi, dans la vraie religion, dans l'amour mutuel, il nous est donné de faire ces efforts, d'avoir cette humilité, d'éviter la querelle, la jalousie, un cœur sec, pour que nous puissions avancer en vérité devant le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Nous avons quitté le mois d'octobre, et pourtant, la prière quotidienne du chapelet, même automatique, même routinière, est importante, car elle nous permet, au moins dans cette vie moderne, d'arracher des minutes. Et si on peut fermer les yeux dans des transports, peut-être pas en voiture, mais de nos jours, il est difficile de prendre sa voiture à Paris. Cette prière du chapelet, cette salutation de Gabriel, cette louange de Sainte Élisabeth, cette prière de l'Église, tout cela, c'est pour entretenir cette foi dans un Dieu qui s'est fait homme, incarné, crucifié et ressuscité. Alors nous pourrons nous présenter devant lui à notre propre mort. Alors nous pourrons prier pour la France, pour l'Europe, pour le monde, au jour du jugement, que notre Seigneur accomplisse jusqu'au bout ce combat pour le salut des âmes, pour les arracher à une liberté abusée lorsqu'elles refusent l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et ainsi, nous comprendrons mieux pourquoi le Christ parfois dort dans la barque, alors qu'il veille, alors qu'il veut le salut, qu'il est le maître des éléments, qu'il est le maître de notre vie, mais à nous, en conscience et en liberté, de répondre à sa grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.